Donc tout de suite, la bibliographie que j'utilisais pour la préparation de cette cours sur l'extrême-onction, parce que c'est important d'y revenir après vous-même. Lors dans la revue des jeunes, les commentaires de l'extrême-onction, c'est tout à fait indiqué, parce que dans l'introduction et dans les renseignements techniques, ont été faites après le Concile Vatican II et avant la promulgation du nouveau rite de l'extrême-onction. Alors, ce commentaire était fait par Henri Gardeil, je crois, n'est-ce pas? C'est Henri, H2. Hein? Oui. Alors, c'est très important parce que je ne sais pas s'il existe un commentaire antérieur, mais en tout cas, c'est la nouvelle édition. Alors, c'est entre les conciles et la promulgation du nouveau rite. Alors, je vous ferai partie pour les status questionis à partir de ce commentaire. Dans la documentation catholique du 4 février 1973, alors c'est le numéro 1625 de la documentation catholique, vous avez la constitution de Paul VI sur les sacrements de l'onction des malades. Et surtout, ça c'est à la page, la première page de cet numéro. Et à partir de la page 3 et 4, vous avez la présentation qui a fait de nouveau rite le cardinal Martimor. Alors, il fait un commentaire du nouveau rite. Alors, c'était très important d'y revenir. Et après, vous savez, dans le livre de Bonini, La Riforma Liturgica, je crois que c'est en italien, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez ici, mais en tout cas, à Econ, vous trouvez cet ouvrage de Bonini. Alors, pour la promulgation, c'est-à-dire, il commente toute l'histoire de la promulgation du nouveau rite. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est lui-même qui raconte tout les différentes questions qui se sont présentées jusqu'à l'élaboration et la promulgation du nouveau rite. Alors, bien sûr, pour la doctrine traditionnelle, vous avez le commentaire de saint Thomas dans le livre des sentences. Ce texte a été presque repris après dans les suppléments. Vous savez que les suppléments, après la moitié de le sacrement de la pénitence, c'est pas saint Thomas qui l'a fait. Alors, presque a été repris la doctrine de saint Thomas dans le commentaire de sentence, mais dans la forme de la somme. Alors, c'est plus ordonné dans la somme que dans le commentaire de sentence. Et vous avez aussi les chapitres du livre 4, chapitre 73, de la somme contra gentes, contra gentiles. Ici, Gardeil vous donne des autres textes moins importants de saint Thomas où il touche la question. Et vous savez quand même le catéchisme du Concile de Trente. C'est très important ça aussi. Et le texte même du Concile de Trente sur la question de l'extrême-onction. C'est aussi important, alors ça c'est très long, très très long, mais c'est important parce que Paul VI, dans sa constitution, le cardinal Martimor et Bonini font référence, alors, un peu à l'histoire du sacrement en soi et surtout les disputes qui ont eu lieu pendant le Concile de Trente. Alors, vous avez un article très 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 long dans le DTC sur l'extrême-onction, dans la voie extrême-onction. C'est très 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 long. Il fait toute l'histoire, mais c'est très important, et aussi, surtout, à partir de la colonne 1998, vous savez, la discussion et définition à 30. Pour voir que c'est pas tout à fait juste, ce qui, en fin de compte, Paul VI et le cardinal Martimor et Bonini essayent de nous faire croire. Alors, c'est important de voir l'histoire même, dans les conciles de Trente. Alors, je n'avais pensé pas du tout de vous faire un exposé, comme on trouve dans tous les manuels et dans la somme, c'est-à-dire voir la matière, la forme, les effets, les ministres, les sujets. Normalement, les manuels, Saint Thomas, il prend les sacrements comme une chose déjà confectionnée. Alors, on étudie la matière, la forme, quels sont les effets, quel est le ministre, quel est le sujet, etc., n'est-ce pas? Alors, en étudiant la question de l'extrême-onction, j'ai vu que, surtout en voyant les changements qui ont été produits, il s'agissait quand même de la question de la nature même du sacrement, et surtout, deux questions, les effets et les sujets. Alors, comme la nature même, les effets et les sujets ont été changés, obligatoirement, ils ont changé et la matière et la forme. Alors, j'ai pris la question, si vous voulez, de point de vue pour la doctrine traditionnelle. Quand on fait la doctrine du sacrement, c'est-à-dire la théologie du sacrement, de tâcher de voir, bon, qu'est-ce que pensait notre Seigneur quand il a voulu instituer les sacrements, et en particulier les sacrements de l'extrême-onction. Alors, quelle était la finalité de ces sacrements? Quoi il cherchait avec ces sacrements? Alors, parce qu'il voulait tel et tel effet, alors il a institué cette matière, cette forme, il destinait ces sacrements à tel sujet, pour arriver à tels effets. Alors, c'est comme ça que j'ai pris la chose. Alors, je vous ferai un status questionis très très vite, vous le trouvez directement ici, je vous lirai d'une façon très très simple. En status questionis, pour voir que quand même c'est en jeu la question de la nature même du sacrement, les effets et les sujets. Alors ça c'est intéressant parce que c'est avant la promulgation du nouveau rite, mais après le concile Vatican II. Et après on va voir que quand même que on fait ça, pratiquement on change les sacrements de l'extrême-onction et on fait, je dirais, un sacramental. Alors, Gardel, il vous présente, à partir de la page 146, il commence la doctrine de l'extrême-onction chez Saint Thomas d'Aquin. À partir de 147, il vous donne la doctrine de Saint Thomas, toutes les thèses qu'il présentait, les conclusions principales qu'il présentait. Et après, il vous dit, deux de ces conclusions, de toutes les conclusions, de tous les tests de Saint Thomas, deux de ces conclusions, celles qui regardent les conditions du sujet. Alors, il met en parenthèse, un malade en péril de mort, et celles qui visent à préciser l'effet propre du sacrement, conclusions que de nos jours sont contestées. Vous voyez, des conclusions de Saint Thomas, il y a deux. Alors, la condition du sujet et l'effet propre du sacrement. Conclusions que de nos jours sont contestées méritent d'être considérées de plus près. Alors, vous voyez, c'est le status questionis. Il faudra voir en particulier si dans la suite de son œuvre, Saint Thomas n'aurait pas modifié la doctrine des sentences. Il vous met bien carrément, n'est-ce pas, les status questionis. Alors, il y a deux conclusions de Saint Thomas qui sont contestées. De fait, ont été modifiées, et à partir de ça, ils ont modifié et la matière et la forme. Alors, vous voyez que c'est, je vous présente les choses comme ça. Alors, première question, c'est l'extrême onction et la mort. Il vous met comme une espèce de sous-titre. Le précédent titre est celui même d'un article de E. Marcotte, qui traite très exactement le sujet que l'on discute actuellement le plus. L'onction des malades, l'extrême onction des médiévaux, est-elle vraiment le sacrement des mourants? Qu'il était de moi l'opinion contestante ou en évolution de Saint Thomas? C'est un article apparu dans la revue de l'Université d'Ottawa en 1960. L'enquête menée ici nous paraît dans son ensemble excellente. Nous ne ferons que la résumer en nous réservant cependant de nuancer sa conclusion ultime. Alors, à partir de la doctrine des sentences, aux sentences, le problème qui nous occupe est traité ex professo à l'article 2 de la question 2. Alors, reproduit carrément après dans la question 32 du supplément, article 1 et 2. Alors, il vous donne, n'est-ce pas, les conclusions de saint Thomas, on verra après. Alors, il tire la conclusion, l'extrême onction est donc bien les sacrements de ceux qui sont proches de la mort. Alors, c'est net, à partir de saint Thomas, dans les commentaires de Saint-Anse, repris dans la Somme Théologie. L'extrême onction est donc bien les sacrements de ceux qui sont proches de la mort. Saint Thomas, qui l'a clairement affirmé, a continuellement recours aussi à cette conception pour expliquer diverses particularités du rite. La matière employée, l'huile qui est éminemment, par sa douceur, un remède qui convient aux mourants, sa forme déprécative, qui est tout à fait adaptée à ces cas. Vous voyez, du fait que saint Thomas parte du principe que l'extrême onction sur les sacrements de ceux qui sont proches de la mort, il établit et la matière et la forme. C'est pas lui, n'est-ce pas? Il fait la théologie, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, cette situation essentiellement terminale de notre sacrement dans la vie humaine apparaît avec une moindre pas netteté dans la présentation d'ensemble de l'organisme des sacrements. Alors, c'est bien quand même la doctrine de saint Thomas. Quand il étudie tous les sacrements, il vous dit quelle est la place et le rôle de l'extrême onction. Cet témoignage convergent ne laisse aucun doute sur la pensée de saint Thomas aux sentences. L'extrême onction est bien le sacrement qui prépare à la mort. On remarquera cependant que si la perspective de la mort ainsi reconnue est certaine, il n'est point dit qu'elle soit imminente ou que le malade soit à l'agonie. Le fait que la guérison est encore possible et qu'on doit envisager le cas de la réitération, même répétée, insinuerait plutôt qu'il ne s'agit point, comme pour Scott, des derniers moments de la vie, mais seulement d'un péril de mort. Là, c'est tout à fait juste, n'est-ce pas? Il y a une nette séparation entre saint Thomas, saint Bonaventure et Scott, et surtout avec Scott. Pour Scott, c'est le dernier sacrement, alors il fallait les conférer même, surtout, après la perte de l'usage de raison. Parce que c'était ordonné à pardonner les péchés véniels, alors il ne fallait pas qu'après l'extrême onction, les sujets puissent pécher de nouveau. Alors vous voyez que c'est pas ça la théorie de saint Thomas, c'est pas ça l'opinion de saint Thomas, c'est pas ça la doctrine catholique. Alors pour saint Thomas, c'est bien le sacrement de mourant, mais quand même, il envisage qu'il peut être réitéré, et que le sacrement a comme effet secondaire la guérison. Alors c'est pas tout à fait exclu la question de que le malade peut ressortir, n'est-ce pas? Alors, il dit, admettons que le sacrement ainsi caractérisé n'est pas celui des agonisants, la possibilité de la guérison n'étant point en effet exclue, reste que la perspective de la mort semble en faire intégralement partie. Alors, l'interprète canadien, ce Gardaï, qui réfère ça, se demande encore notre interprète canadien. Saint Thomas a-t-il tenu les doctrines qu'il professait ainsi pour absolument irréformables? Il a ça, est-il répondu, accueilli et jugé comme elle se présentait de son temps, comme des opinions couramment enseignées sans opposition par les théologiens et pour autant acceptables et utilisables en théologie, mais toujours à titre d'opinion et donc susceptibles d'être un jour réformées ou même abandonnées. C'est le Canadien qui dit ça. Alors, Gardel dit, salva révérencia notre auteur dans sa bienveillance pour le docteur Angélique, ne s'avance-t-il pas trop ici? Rien ne permet de dire qu'en réalité, que saint Thomas aille positivement regarder sa doctrine comme réformable, etc. Bon, ça c'est pour la question de sujet, n'est-ce pas? Les effets de l'extrême onction. Cette question, on le sait, est un sujet de litige. L'extrême onction a-t-elle pour effet premier la guérison corporelle, comme on paraît l'avoir cru d'abord? N'est-elle pas plutôt la guérison spirituelle du malade du péché, du mal du péché, comme on l'affirme de façon de plus en plus nette à partir du 8e siècle? Alors là, c'est la question de dispute. L'effet premier, c'est la guérison corporelle, ou c'est un effet spirituel? Alors, si on regarde en histoire, il y a assez de litiges, surtout en Orient, n'est-ce pas? Alors ça c'est vrai, il y a eu cette dispute. Alors il vous donne tous les différentes positions. On revient à la doctrine de Saint Thomas. Saint Thomas vous dit qu'il y a dans l'extrême onction deux effets. En effet, première et des effets secondaires qui en réalité sont trois. Alors, en effet, première, c'est de effacer les reliquias peccati. Alors, il nous explique bien qu'est-ce que sont ces reliquias peccati, ces reliques du péché. Alors, c'est une espèce de infirmité, de faiblesse spirituelle. Faiblesse spirituelle. Qui provient et de péché originel et de péché actuel, personnel. Alors, justement, au moment de l'agonie, au moment de la maladie, les malades, ils se trouvent faibles à cause de cette faiblesse spirituelle. Et l'effet principal, premier de l'extrême onction, c'est d'effacer cette faiblesse pour lui donner une force. C'est pour ça que, de la même manière que la confirmation, c'est le complément du baptême, dit Saint Thomas, la extrême onction, c'est le complément de la pénitence. Et vous avez après trois effets secondaires. C'est de effacer les péchés, si c'est conditionnel, si est-ce qu'il y a du péché. Mais vous voyez, il y a une différence très importante. Comme l'extrême onction, c'est un sacrement de vivant. C'est pas de la même façon que l'Eucharistie ou la confirmation ou n'importe quel autre sacrement de vivant pardonne les péchés mortels si le sujet est bien disposé, mais quand même il y a un péché mortel. C'est direct, dit Saint Thomas. C'est un effet direct. C'est pas indirectement comme le fait l'Eucharistie, comme le fait la confirmation, comme le fait le mariage, si le sujet est bien disposé, mais quand même il y a un péché mortel parce qu'il a oublié, ou etc. Alors il n'y a pas un obex, mais quand même il y a un péché mortel. Alors le sacrement de vivant vous donne la grâce. Pour l'extrême onction, c'est un effet direct. Il y a donc l'effet d'effacer les péchés, si ce qu'il en trouve, la guérison corporelle, si ça convient, ou bien spirituel. Et vous avez un troisième effet secondaire que c'est la diminution de l'obligation à la peine temporelle, une réduction de la peine à payer au purgatoire. Alors s'il y a de la disposition requise, c'est complètement pardonné. Alors quelqu'un qui reçoit le sacrement de l'extrême onction avec toutes les dispositions et après il meurt, en principe, comme dit Saint Thomas, n'est-ce pas, les prépare pour la gloire. Alors ça c'est très important du point de vue pastoral, n'est-ce pas? Parfois les fidèles pensent que bon, l'extrême onction, ça veut dire bon, requiescant in pace, n'est-ce pas? Alors il ne veut pas recevoir l'extrême onction parfois à cause de ça. Bon, c'est très important. Alors ça c'est la question de ces faits. Maintenant la question de status question, c'est l'effet principal, c'est la guérison corporelle. C'est pas un effet spirituel, c'est un effet corporel. Alors, Gardel vous présente après le Concile de Trente. Il vous présente d'abord d'une façon très réduite la dispute contre les protestants. Dans le DTC, vous savez très très bien les théories protestantes et de Luther et de Calvin, et comment le Concile de Trente a bien visé cette théorie protestante pour déterminer bien la doctrine sur l'extrême onction. Alors Gardel vous dit, c'est évident vis-à-vis des affirmations des réformateurs dont la critique s'était exercée avec une violence toute particulière à l'égard de l'extrême onction qu'il convient de lire les textes du Concile. Voici en bref les points principaux sur lesquels portaient les dénégations protestantes. Alors il vous donne ça. Comme il est assez de s'en rendre compte, les quatre canons du Concile promulgés font très exactement pièce à ces critiques. Je vous donne les quatre canons. Vous trouvez ça dans les Denzinger, 926 avant 9. Les quatre canons du Concile de Trente, 926 avant 9. Les chapitres doctrinaux précisent de manière intéressante les anathèmes des canons et en outre permettent de mieux apprécier la portée de l'enseignement conciliaire au égard aux conceptions des théologiens médiévaux et en particulier de saint Thomas. Retenons ce qui concerne l'effet du sacrement et les conditions du sujet, proximité de la mort. Pour ce qui est de l'effet, il est indiqué qu'aussi bien le pardon des péchés que la guérison corporelle ne sont qu'occasionnels. Vous voyez, le pardon du péché et la guérison corporelle ne sont qu'occasionnels. Saint Thomas dit secondaire et conditionnel. L'effet constant et principal consiste dans la purification des restes du péché, les reliquiae peccati, ou dans le soulagement et la confortation de l'âme. Alors vous voyez que c'est la même chose. Alors la purification des restes du péché, c'est la même chose que le soulagement et la confortation de l'âme. Parce que les reliquiae peccati sont effacées, l'âme est réconfortée, fortifiée. Cette faiblesse, alors reliquiae peccati ne savait pas dire des habitudes. Ce ne sont pas des habitudes. Et saint Thomas il dit bien clairement. Peut-être même les habitudes de péché, de vice, restent. Mais le malade est fortifié contre ces habitudes mauvaises. Alors, reliquiae peccati ne savait pas dire, donc, dans le sens de la morale, les habitudes, c'est-à-dire habitus, n'est-ce pas, mauvaises, de vice. Non, c'est une faiblesse due au vice. Alors, le problème de la condition du sujet, c'est-à-dire de la gravité de la maladie dont il est frappé, devait provoquer des discussions assez vives. Alors, il appuie trop Gardin, Paul VI et Martin Mor. Alors, ce sont des discussions qui ont eu lieu, c'est vrai, dans les séances, mais c'est pour ça qu'en conscience, on le fait pour ça, n'est-ce pas? C'est pas pour tout défouiller, se mettre d'accord. Mais quelle est la doctrine qui a été confirmée après et définie? Alors, il appuie trop sur la question de discussion antérieure, et quand même, la doctrine qui a été confirmée, qui a été définie. Alors, le problème de la condition du sujet, c'est-à-dire de la gravité de la maladie dont il est frappé, devait provoquer des discussions assez vives, dont le résultat fut qu'on modifia notablement les schémas primitifs. Celui-ci était ainsi libellé. Alors, il vous donne les schémas primitifs, dit l'ancien ne doit être conféré qu'aux malades, et non pas à tous, mais à ceux-ci seulement qui sont dans un si grand péril qu'ils semblent avoir éteint la fin de leur vie. C'est pourquoi ce sacrement est appelé justement l'extrême onction et le sacrement de ceux qui s'en vont, qui ne doit être accordé qu'à ceux qui sont dans les derniers combats, luttant avec la mort, et s'en vont d'ici-bas vers le Seigneur. Ça, c'était le schéma primitif. Il est remarquable que, omettant toute cette surcharge d'incidents, ça c'est le commentaire de Gardin, n'est-ce pas? Il est remarquable que, omettant toute cette surcharge d'incidents par lesquels on voulait signifier que les sacrements concernaient bien les seuls mourants, les pères se railleront à cette formule plus simple et beaucoup plus réservée. Alors, ça c'est la formule définie. Cette onction doit être faite aux malades, surtout, per certim, à ceux qui sont en si grand péril qu'ils paraissent avoir éteint le terme de leur vie. C'est pourquoi on l'appelle le sacrement de ceux qui s'en vont, sacramentum exeuntium. Après, vous avez une petite parenthèse avec l'extrême onction chez les orientaux, et vous trouvez à partir de la page 160, l'onction des malades dans la pensée actuelle de l'Église. Tout ça, c'est fait partie de le status questionnaire, n'est-ce pas? La théologie latine postérieure, ainsi que la discipline pratique qui s'inspire, seront évidemment dominées par la détermination du Concile de Trente. Jusqu'à une époque tout à fait contemporaine, les points discutés ne seront en général que d'importance mineure. Portée exacte du texte de Marc 6,13, nécessité pour la validité du sacrement de la bénédiction préalable de Guil, nombre de fonction requise, valeur de formule indicative, validité de l'extrême onction conférée par un diacre. La doctrine de saint Thomas, que le concile paraît avoir consacrée, pour l'essentiel, ne rencontre pas de opposition et devient quasi commune. On en trouve une expression autorisée dans l'exposé consacré au sacrement du catéchisme du concile de Trente. De nos jours, cependant, un certain renouvellement de la théologie de notre sacrement, que plusieurs documents du magistère paraissent autorisés, se manifeste. Le point que retient l'attention est toujours l'état de gravité de la maladie des sujets en cause. Alors, il faudrait ajouter là, et les faits. Suffit-il de dire, comme on sait d'ailleurs l'enseignement courant depuis le concile de Trente, qu'il n'est pas nécessaire que les malades soient à l'article de la mort ou en agonie, ou d'insister, comme le fait de façon présente le catéchisme du concile de Trente, pour qu'on donne les sacrements sans trop tarder? S'est-il déclaré, bon, il vous donne la cite, telle était bien la pratique, alors ça suffit de dire, comme ce que dit le concile de Trente, et le catéchisme du concile de Trente, que la maladie soit, il n'est pas nécessaire que les malades soient à l'article de la mort ou en agonie. Ou d'insister, comme le fait de façon présente le concile, le catéchisme, pour qu'on donne les sacrements sans trop tarder. Ça suffit ça ou il faut quelque chose de plus? Alors, on va voir que non, il faut quelque chose de plus. Telle était bien la pratique qui était proposée jusqu'à nous. Saint Thomas n'aurait rien à y redire, puisqu'elle correspond à sa manière de voir. Mais ne faut-il pas aller plus loin, et non seulement en requérant une pleine lucidité, rendre moins urgent la perspective de la mort, mais l'écarter pratiquement? Il vous dit carrément, hein, et vous voyez que c'est avant la promulgation du nouveau rite, et après le concile. Alors, ne faut-il pas aller plus loin, et non seulement en requérant une pleine lucidité, rendre moins urgent la perspective de la mort, mais l'écarter pratiquement, tout au moins comme condition nécessaire pour la réception du sacrement? Ne suffirait-il pas de dire que la maladie grave, même sans vrai péril de mort, en est une condition suffisante? Les mourants demeurant, cela va sans dire, des sujets privilégiés? Alors, il vous met bien, c'est le status questionis. Ça, c'est dans la page 161, vous savez, status questionis. Alors, ça suffit, ce qu'a dit saint Thomas, ce qu'a dit le concile de Trente, le catéchisme du concile de Trente, ou il faut aller plus loin? Et ça suffit que la maladie soit grave, même si le danger de mort ne se trouve pas. Ceux qui pensent ainsi font remarquer que la tradition sur ce point paraît partagée et avariée. On y vous donne en Orient, en Occident. On invoque aussi la pratique pastorale. Alors, il pose la question, l'extrême onction va-t-elle devenir ou redevenir purement et simplement l'onction des malades? Le fait qu'elle puisse avoir en Orient et qu'il ait pu avoir aux origines cette signification élargie semble bien indiquer que l'on se trouve ici devant un point de discipline, C'est pas question de foi, c'est pas question de dogme, c'est une question de discipline. Il s'agit quand même de la matière et de la forme d'un sacrement. Alors, on se trouve ici devant un point de discipline dont l'Église est maîtresse. Mais nous savons par définition de Pie II que l'Église n'est pas maîtresse sur la substance du sacrement. Au moins, en de certaines limites, de fait, des documents récents du magistère paraissent aller dans ce sens. Alors, et après, il vous donne ce que dit le Concile Vatican II, où je vais reprendre après, ce n'est pas nécessaire d'y revenir, mais je vous donne tout de suite une petite changement important. Vous trouvez dans le numéro 73 de la Constitution sur la liturgie, n'est-ce pas? Vous dites l'extrême onction, mieux dénommée onction des malades, n'est pas le sacrement seulement de ceux qui sont en péril de mort en immédiate. Aussi le temps opportun pour le recevoir est-il déjà certainement arrivé quand les fidèles commencent à être en danger de mort? Alors, quand les fidèles commencent à être en danger de mort, le code nouveau il vous dit quand le fidèle commence à être en danger. Alors, les nouveaux codes de 83 ne suivent pas, même pas, le Concile Vatican II. Alors, dans le Concile Vatican II, vous trouvez le moment certain, n'est-ce pas, pour donner l'extrême-onction, c'est quand le fidèle commence à être en danger de mort. Le code a enlevé des morts. Commence à être en danger. Tout court. Bon, ça c'est le status questionis, n'est-ce pas? Alors, je passe sur la doctrine traditionnelle, je n'ai pas le temps pour vous donner, n'est-ce pas? Vous trouvez ça dans la somme contrachente, dans les catéchismes du Concile de Trente, n'est-ce pas? Je vous lis parce que c'est important, quand même vous pouvez trouver ça, mais c'est plus important de voir maintenant. Alors, la constitution de Paul VI, il vous dit, la doctrine concernant la onction des malades est exposée dans les textes des conciles œcuméniques de Florence, de Trente et de Vatican II. Après que le concile de Florence eut décrit les éléments essentiels de l'onction des malades, le concile de Trente déclara son institution divine et développa l'enseignement de l'épître de Saint-Jacques sur cette sainte onction, particulièrement la réalité et l'effet de ces sacrements. Alors c'est pour six que reprend, si vous voulez, la doctrine et du concile de Florence et du concile de Trente. Alors pour ces, bien sûr, comme nous appelons chez nous, la ligne média, n'est-ce pas, la ligne moyenne, ah, c'est magnifique, puis vous voyez bien, puis Paul VI, il reprend quand même Florence et Concile de Trente, oui, oui, mais ça c'est la carotte, n'est-ce pas, pour faire marcher. Mais après, vous verrez qu'il s'en fiche carrément, et de Florence, et de Trente, et de Saint-Thomas, et de tout. C'est comme d'habitude, n'est-ce pas? Alors, il vous dit, après que le Concile de Trente a décrit les éléments essentiels, alors il dit, ce sont les éléments essentiels de l'onction des malades, le concile de Trente déclara son institution divine et développa l'enseignement de l'épître de Saint-Jacques sur cette sainte onction, particulièrement la réalité et l'effet de ces sacrements. Deux points, il vous donne entre guillemets le test. La réalité est cette grâce du Saint-Esprit dont l'onction efface les péchés, s'il y en a encore à effacer. Alors c'est l'effet secondaire conditionnel, ainsi que les séquelles du péché. Elle soulage et fortifie l'âme du malade en excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Ainsi allégé, les malades supportent plus aisément les peines et les fatigues de la maladie et résistent plus facilement aux tentations du démon qui mord au talon. Parfois, il recouvre la santé corporelle, il vous donne. Parfois, il recouvre la santé corporelle quand cela est utile au salut de l'âme. Ça, c'est la fin de la citation du Concile de Trente. Le Saint-Concile affirme en outre que par ces paroles de l'apôtre, il est assez clairement établi, de nouveau, de guillemets, que cette onction doit être faite aux malades, assez, surtout dont l'état est si dangereux qu'ils semblent arriver à la fin de leur vie, ce qui lui a fait aussi donner le nom de sacrement des mourants. Continue Paul VI. Le second concile du Vatican a ajouté les précisions suivantes. L'extrême onction, que on peut appeler aussi et mieux l'onction des malades, n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie ou de la vieillesse. En révisant le rite de l'onction des malades, il fallait tenir compte de tout ce qui précède afin de mieux adapter aux nécessités de notre époque ce qui est sujet à changement. Et le cardinal Martin More, quand il présente le nouveau rite, il dit « L'importance théologique, spirituelle et pastorale des décisions prises méritent d'être soulignées, car elles devront entraîner, dans bien des cas, un changement de mentalité de la part des prêtres et des fidèles, et par conséquent un effort intense de catéchèse. » Alors, il vous dit carrément, n'est-ce pas? C'est un changement qui implique un changement de mentalité, de point de vue théologique, spirituel et pastoral. Et bien sûr qu'il faudra un changement de mentalité quand un prêtre arrive et dit à la maîtresse de maison, s'il vous plaît, donnez-moi de l'huile avec lesquelles vous faites des frites pour que je les bénisse pour conférer les sacrements. Parce que le prêtre, il peut le venir au moment qu'il va conférer les sacrements, avec n'importe quelle huile. Alors, soit il va apporter la sienne, soit il va demander à la maîtresse de maison, donnez-moi de l'huile. Mais quelle huile? Et avec laquelle vous faites les frites, quand même. Alors, il faudra un changement de mentalité. Il y a un effort de catéchèse, bien sûr. Non, c'est grave. Hein? On se moque un peu, mais quand même, imaginez-vous. C'est pas la même chose que vous arrivez avec votre pochette, n'est-ce pas, un violet, tout propre, vous mettez un petit nappe, ou c'est déjà préparé avec des bougies, que de dire, donnez-moi de l'huile. Et après, les venir, comme on va voir comment on peut venir les huiles. Alors, soulignons cependant aussitôt que ces changements étaient déjà vivement désirés et même commentés. Il est dans le prolongement des orientations tracées déjà par le Concile de Trente. Ah, les malins. C'est pour ça que c'est important de voir l'histoire du sacrement. Alors ça, c'est la pilule, n'est-ce pas, qu'il faut avaler pour les libéraux, etc., n'est-ce pas? Ah, vous voyez, c'est le complément du Concile de Trente, comme toujours on nous dit, n'est-ce pas? C'est tout à fait dans la ligne du Concile de Trente, etc., c'est tout à fait traditionnel. Alors la tradition est à garder. C'est sauvé. Ce serait en effet une grave erreur que de considérer le Concile de Trente comme trop longtemps, ou ses décrets comme caducs. Non, pas du tout, non, c'est la continuation. Loin de s'opposer à lui, le deuxième Concile du Vatican en reprend, pour la conduire plus loin, l'œuvre de réforme et d'approfondissement doctrinal. C'est pourquoi la Constitution apostolique Sacra Munitionem s'appuie dès ses premières phrases sur l'enseignement de la 14e session de Trente, dont elle reproduit une partie. On sait d'après l'histoire des débats que ce texte marquait de la part des pères la volonté de prendre de la distance à l'égard de la théologie médiévale et le refus de voir dans l'extrême onction les sacrements de ceux-là seuls qui vont mourir. Alors, je vous ai cité, n'est-ce pas, vous savez le texte de ce qui a été débattu et ce qui a été défini. Profitant des lumières plus grandes, qui ont projeté sur la tradition de ces sacrements les études patristiques et liturgiques, ils sont les seuls, eux, à connaître tout ça, n'est-ce pas? Le deuxième Concile du Vatican a pu faire un pas de plus. On pense tout de suite, n'est-ce pas, aux exercices de Saint-Ignace, n'est-ce pas? Les deux drapeaux. C'est les démons sous la chair haute, les savants. Ils sont les savants, n'est-ce pas? Sans désavouer les termes médiévaux d'extrême onction, vous voyez maintenant la terminologie qu'il va utiliser, n'est-ce pas? Sans désavouer les termes médiévaux d'extrême onction, il a marqué sa préférence pour celui d'onction des malades. À deux reprises, il a suggéré que c'était là plus qu'une question de vocabulaire. Alors, c'est pas une question de vocabulaire, c'est plus qu'une question de vocabulaire. Alors, si c'est plus qu'une question de vocabulaire, alors c'est une question doctrinale, si vous voulez, pourquoi il dit auparavant, sans désavouer? Si c'est pas une question de vocabulaire, bon, il a désavoué le Concile de Trente. C'est pour ça que, comme c'est une question de doctrine, a changé le nom même. Vous voyez la terminologie, n'est-ce pas? Alors, il vous donne ce que dit le Concile de Vatican II. Ce sacrement est, en effet, destiné à donner aux malades les grâces propres à son état. Celle-là même que décrit l'apôtre Saint-Jacques dans le chapitre 100 de son épître, cité de façon universelle par le magistère et par la liturgie. Alors, il vous donne le texte de Saint-Jacques. Le rituel latin, provenant du Moyen-Âge, demeurait, certes, dans son ensemble, fidèle à ses doctrines, mais la formule accompagnant chaque onction n'exprimait qu'un seul des effets du sacrement. Per istam sanctam unctionem de sua amplissima misericordiam indulgia de tibi dominus quidquid deliquisti. Et les onctions appliquées aux divers sens du corps humain prenez un aspect surtout pénitentiel. Quidquid per visum, etc., deliquisti. La première et plus importante réforme qui apporte la nouvelle constitution de Paul VI consiste précisément à changer la formule sacramentelle. Lui, en substituant une inspirée des textes de Saint-Jacques et du Concile de Trente, per istam santa munzione de sua ampissima misericordia, adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti, ut a peccatis liberatum, te salvet atque propitius alevet. Et ceci ouvre deux remarquables perspectives. La première, que ce n'est pas une remarquable perspective, pas du tout, et en plus se trouvait déjà dans le Concile de Trente, mais c'est pour donner, n'est-ce pas, d'ampleur. Alors, la première remarquable perspective, c'est que la grâce donnée est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est la remarquable perspective. Oh. Alors, comme l'a toujours exprimé la prière romaine de la bénédiction de Guy. Alors, si justement, si c'est comme toujours l'a exprimé la bénédiction, qui après a été changée, alors la bénédiction de Guy a été changée, alors la première remarquable perspective, à quoi sert? À rien. La seconde, c'est ça qui intéresse, c'est que le sacrement de l'onction est un remède pour l'âme et le corps. S'il y a un effet pénitentiel, au point même de suppléer la pénitence lorsque celle-ci est impossible, il apporte surtout une grâce de salut, de réconfort, de soulagement. Alors ça c'est indiqué l'effet principal, c'est corporel, comme on va voir, n'est-ce pas? Alors, s'il y a un effet pénitentiel, il apporte surtout une grâce de salut, de réconfort et de soulagement. Mais c'est tout à fait visé la question corporelle, n'est-ce pas? Alors, je passe sur la doctrine de Saint Thomas, etc., sur les effets. On vient directement... au sujet, si vous voulez. Bon, on a vu, n'est-ce pas, les différences. Alors, la constitution de Paul VI dit, ce sacrement peut être réitéré si le malade, après avoir reçu l'onction, se rétablit, puis redevient malade, ou si, durant la même maladie, le péril devient plus grave. Alors, ça, c'est un changement important. Pour bien le comprendre, n'est-ce pas, il faut savoir quelle est la doctrine pour permettre la réitération du sacrement. Alors, Saint Thomas, il vous dit que il vous fait, comme pour tous les sacrements, la distinction entre res tantum, sacramentum tantum, res et sacramentum. Alors, il y a quelque chose qui demeure, c'est le res et sacramentum. Pendant que le res et sacramentum demeure, alors le sacrement agit encore, il produit sa grâce. Alors, pendant que, alors il y a quelqu'un qui s'est sujet approprié pour recevoir l'extrême onction, vous donnez l'extrême onction, alors, tandis, pendant que le danger de mort demeure, le res et sacramentum demeure. C'est pour ça qu'on ne peut pas le réitérer pendant que le danger de mort pour lequel vous avez extrémisé, encore demeure. Parce que le sacrement en soi, demain, res et sacramentum, il agit encore. Le malade sort du danger de mort. Soit qu'il retombe dans le danger de mort à cause de la même maladie, soit qu'il retombe dans le danger de mort à cause d'une autre maladie, alors c'est un autre danger de mort. Le sacrement a fini son effet, alors on peut le réitérer. Si vous voulez, pour prendre une image, c'est un peu comme le caractère du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Vous ne pouvez pas le réitérer parce qu'il y a le caractère qui demeure. Tandis que demeure l'état de danger de mort pour lequel vous avez donné l'extrême onction, on ne peut pas le réitérer. Une fois sorti du danger de mort, le sacrement fini. Il n'y a pas ni res, ni sacramentum, ni res, ni sacramentum. Alors, à nouveau danger de mort, c'est occasion de réitérer l'extrême onction. Pour eux, non. Alors, c'est le même danger de mort, mais que la maladie devient plus grave, simplement, mais c'est le même danger de mort, on peut le réitérer, tandis que pour la théologie traditionnelle, non. Alors, Mgr Martimor explique un peu plus, il dit, enfin, notons l'assouplissement que la constitution apostolique apporte à la discipline en vigueur au sujet de la pratique du sacrement de l'onction. On pourra le redonner à un malade qui l'a déjà reçu, non seulement s'il rechute après une période de convalescence, comme cela a été admis, canon 940 du droit de l'année 17, mais même si au cours de la même maladie, son état devient plus critique. Alors, on voit bien, c'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Parce que si c'est un sacrement avec une res et sacramentum qui demeure, il continue à agir quand même. À quoi le redonner? Alors, s'il s'agit d'un sacramental, alors c'est de oindre avec de l'huile bénie un malade, bien sûr, il est plus malade maintenant, alors on donne encore des remèdes. C'est comme les médecins, les docteurs. Bon, il y a un malade, n'est-ce pas, parce que c'est toujours c'est l'analogie entre ce qui se passe dans l'ordre naturel, l'ordre surnaturel. C'est pour ça que la matière, c'est l'huile, parce qu'elle guérit. De la même façon qu'agisse sur le corps, il va agir, c'est un signe efficace de ce qui se passe dans l'âme. Alors, le médecin, il administre une médecine pour un malade. Il revient plus grave. Alors, il donne une médecine plus forte. Ou la même, une dose plus forte, je ne sais pas. Parce que c'est plus grave. Mais si l'état est le même, pas, alors, c'est pas question de réadministrer la médecine. Alors, comme pour eux, c'est un simple sacrement, je pense. Alors, ça devient plus grave. Alors, on fait une autre notion et on répète, et on répète, et on répète. Alors, on peut voir un peu la conception qu'ils ont du sacrement, n'est-ce pas? Alors, on vient donc à la question du changement, la matière. Premier changement, la matière peut être n'importe quelle huile. La constitution apostolique Sacra Munzione, comme l'huile d'olive, dont l'emploi était jusqu'à maintenant exigé pour la validité du sacrement, fait défaut ou est fort difficile à trouver en certaines régions, nous avons décrété à la demande de nombreux évêques que l'on pourra à l'avenir, selon les circonstances, utiliser également une autre huile. Celle-ci devra toutefois être extraite des plantes, comme les huiles d'olive. Alors vous voyez que la raison pour laquelle il établit ça a été déjà présentée comme objection par saint Thomas dans le supplément question 29, article 4, ad tertium. Saint Thomas, il avait répondu, bien qu'elle ne vienne pas partout, l'huile d'olive peut aisément être transportée en tout lieu. De plus, ce sacrement n'est pas nécessaire au point que ceux qui quittent cette vie ne puissent être sauvés sans lui. Alors, c'est pas question de changer la matière. Alors, Saint Thomas, il avait répondu il y a 7 siècles auparavant. Et la seule raison qu'il vous donne Paul VI, c'est justement l'objection que présentait Saint Thomas. C'est la seule raison. À la demande de nombreux évêques, comme on ne trouvait pas de huile d'olive partout, alors, c'est-à-dire il y a 7 siècles, Saint Thomas, il disait qu'il pourrait être transféré à n'importe quel lieu de la terre. Maintenant, avec les concords, les bateaux et tout ça, c'est difficile quand même, alors il faut changer la matière. Alors vous voyez que la raison, c'est illogique, n'est-ce pas? Bon, mais une condition préalable pour compter avec une matière apte à l'administration du sacrement, c'est que l'huile soit bénie. Alors c'était prévu ad validitatem. Ad validitatem. L'exorcisme a été supprimé et la bénédiction de l'huile, dont l'évêque doit s'en servir, c'est ça. Mais aussi les prêtres, ils peuvent l'utiliser pour venir l'huile au moment qu'il va extrémiser. C'est dans la cérémonie même, il ne peut pas la venir ailleurs, il doit la venir dans la cérémonie même. Alors, voyez la différence, bon, ça a été ajouté ici, dans un bourri, et aussi les consolations de Pater, que le perfil n'a pas une firmance en un bourri, mais des bourris, le perfil n'est pas. Voyez ici, et nous, de quoi est-ce que nous spirons Santo in paraclito, de genis in han pinguedine olei. Pinguedine olive. Allora, Italy, vous avez la différence. Quando il vivi ligneo produce il lignatus est, ad reflexione corporis, ad reflexione mentis et corporis. Voyez l'effet? Allora, con vis, son mata che son corporel. Se, de huile d'olive o de n'importa che plant, è la benedizione, se tu vis. Allora, sace la matière e lo anime. Allora, ad reflexione corporis, ad reflexione mentis et corporis. Ut tua santa benedizione sit omni, qui hoc unguento celestis medicine. Celestis medicine. Unguento per unguitur. Allora, celestis medicine, e te ande bene. Tutamen corporis, tutamen mentis et corporis. Allora, tutamen corporis, anime ac spiritus. Alors là, c'est d'abord, n'est-ce pas, corporis, après anime ac spiritus.
Mais je vous lis maintenant la formule dont le prêtre peut s'en servir, s'il veut, cette facultative. Il y a une autre formule, c'est pas la seule. Alors l'évêque, il doit s'en servir de cette formule pour l'avenir, le jeudi saint. Le prêtre, il peut s'en servir de cette nouvelle formule au moment de l'extrême onction, dans le rite, dans la cérémonie. Mais, alia formula, benedictiones olei infirmorum. Que, bien sûr, c'est qu'on va utiliser tous les prêtres nouveaux, évidemment. On connaît bien les processus, n'est-ce pas? Alia formula, hein? Alors le prêtre dit, benedictus Deus Pater Omnipotens, qui propter nos et de nostram salutem filium tuum in mundum misisti. Alors tout le monde dit Benedictus Deus. Benedictus Deus filium unigenite, qui ad humana nostra descendens infirmitativus nostris mederi voluisti. Benedictus Deus. Benedictus Deus Spiritus Sancte Paraclite, qui infirma nostri corporis virtute perpeti firmans, qui infirma nostri corporis, qui humana nostra descendes infirmitativus nostris mederi voluisti, qui proter nos et nostram salutem filium tuum in mundum misisti. C'est toujours l'aspect, alors, benedictus Deus. Alors, jusqu'à présent, il n'y a aucune bénédiction, c'est simplement de formule de espèce de l'étanie. Alors, adisto domine propitius et hoc olium, fidelium tuorum curantis angoribus preparatum, tua benedizione santifica, ut fidei oration intercedente, quod eo ungantur, ab omni qua detinentur infirmitate liberentur, per Christum Dominum nostrum. Alors, c'est la formule qu'on va utiliser tous les prêtres, je suis presque sûr, avec les huiles pour faire les frites. Ça, c'est la matière éloignée. Alors, a été changée la matière prochaine. Vous savez que la matière prochaine, c'est l'application de la matière éloignée.
Au moment que vous comprenez les sacrements. Alors, c'était les cinq onctions prévues au sens corporel.
C'est, Saint Thomas, il dit clairement que les cinq onctions sont essentielles. Tandis que les autres deux onctions, vous savez, de pied et de rein, étaient accidentelles ou secondaires, n'est-ce pas, principales, secondaires. Alors, il vous donne bien la doctrine, pourquoi il faut oindre cet sens corporel, parce que ce sont les racines des péchés. Alors, l'âme agit à travers le corps, alors à travers les sens, alors il faut aller à la racine, à la source des péchés. Parce que les péchés sont ceux qui entraînent cette faiblesse que le sacrement va enlever, justement. Parce qu'on veut enlever la faiblesse produite par les péchés, il faut aller à la racine du péché, sont les sens corporels. Alors, il y avait pour ça cinq onctions principales, étaient tout à fait secondaires les autres deux, et dans le code de l'année 17, la onction de rein a été complètement laissée de côté. Alors, c'est pas facultatif, on ne peut pas la faire. La de pied, c'est facultatif. Alors, maintenant, il y a une seule onction double, mais c'est une seule onction double, avec une seule formule. Alors, on dit seulement une fois la forme, et on fait l'onction et de front, ou de la front, du front et des mains. Mais c'est une seule onction. Alors, je vous donne l'explication qui vous donne la Constitution apostolique Sacra Unctionem dit. En ce qui concerne les nombres des onctions et les membres qu'il faut oindre, il a paru opportun d'apporter au rite quelques simplifications. Le sacrement de l'onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades. On les oindre sur le front et, sur les mains. Ça, c'est la Constitution, mais Martin More, il vous donne la raison. S'il vous plaît, c'est pas question de rire, c'est une chose sérieuse, n'est-ce pas? C'est un sacrement. Je vous donne la raison qu'il a Martin More. Ces changements de la formule s'accompagnent de deux autres conditions moins importantes. Quand même, c'est la matière prochaine. Concernant les signes sacramentaux. Moins important, mais concernant le signe sacramental. L'une vise le nombre des onctions. En effet, le Concile du Vatican avait émis le vœu que le nombre des onctions sera adapté aux circonstances. Entre la multiplicité des onctions prévues par le rituel hérité du Moyen-Âge et les signes réduite à une seule onction dans les cas de nécessité, il avait à trouver une solution moyenne. Alors, moi, je trouve que la moyenne, c'est 2,5, et pas 1. La moyenne entre 1 et 100, c'est 2,5. Alors, pourquoi ils ont fait une seule, je ne sais pas. Alors, ça, c'est la raison qu'ils vous donnent. S'il vous plaît, c'est pas sérieux. Alors, il fallait trouver la moyenne. Alors, vous voyez que la doctrine de saint Thomas, pourquoi il fallait 5 onctions? Parce qu'il y a 5 sens. Et pourquoi il fallait oindre les sens? Parce que ce sont les racines du péché. Et pourquoi? Parce qu'à cause du péché, il y a cette faiblesse dans l'âme. Et pourquoi? Et parce que c'est justement ce qui était visé par notre Seigneur quand il instituait les sacrements. C'est l'intention de notre Seigneur de conforter les malades sur cette faiblesse dans les moments de l'agonie. Alors, on changeait la nature du sacrement. Alors, il y avait à trouver une solution moyenne. De point, le rite normal ne comprendra désormais que deux onctions, au front et aux mains, accompagnées d'une unique formule. Le rituel particulier, c'est-à-dire le rituel de conférence épiscopale, les rituels particuliers pourront d'ailleurs garder ou introduire des onctions plus nombreuses ou appliquer différemment selon les génies des divers peuples. Alors, moi, je m'excuse, je ne ferai pas, n'est-ce pas, des applications pratiques, mais imaginez-vous avec l'inculturation, hein? Rappelez-vous le pape, n'est-ce pas, là-bas en Océanie, je ne sais pas où il était, que cette dame, Mademoiselle, n'est-ce pas, qui lisait l'épître un peu nu. Bon. Imaginez-vous, selon les génies de chaque peuple, ce qu'on peut faire. Non, c'est grave. Hein? Je finis avec la forme. Bon, il y a un changement de forme. Alors, je vous dis, vous connaissez par cœur presque, je pense. Per istam santa munzionem, indulgeat tibi dominus, quid deliquisti. Alors, selon les saints, n'est-ce pas? Per istam santa munzionem, indulgeat tibi dominus, quid per visum, etc., deliquisti. Amen. La Constitution apostolique, il vous dit, nous avons jugé bon de modifier la formule sacramentale pour que les effets du sacrement soit mieux exprimé en employant les paroles de Saint-Jacques. Alors, il y a bien une raison doctrinale. Là, c'est une raison doctrinale. Nous avons changé la formule pour exprimer mieux les effets. C'est-à-dire, comme va dire le cardinal Martin More, carrément, la formule antérieure, ancienne, n'exprimait pas bien les effets. Alors, il vous dit, le rituel latin provenant du Moyen-Âge demeurait certes dans son ensemble fidèle à cette doctrine, mais la formule accompagnant chaque onction n'exprimait qu'un seul des effets du sacrement. Et les onctions appliquées aux divers sens du corps humain prenaient un aspect surtout pénitentiel. La première et la plus importante réforme qu'apporte la nouvelle constitution de Paul VI consiste précisément à changer la formule sacramentelle, lui en substituant une inspirée du texte de Saint Jacques et du Concile de Trente. Alors, per istam santam unctionem et de suam piissima misericordiam, adiuvet te Dominus, entonces adiuvet te Dominus, gratia Spiritus Sancti, ut a peccatis liberatum, te salvet atque propitius alevet. O alevet, ¿cómo es? Alevet, alevet. Alors, que pour cette sainte onction et sa très douce miséricorde, le Seigneur vous assiste de la grâce du Saint-Esprit, afin que, une fois libéré de vos péchés, il vous sauve et vous relève dans sa bonté.